pause musicale.
L'émission de l'association Toulon-Jacquoise, le GERFO.
Le rendez-vous mensuel qui vous propose un autre regard
sur la musique
et le patrimoine.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pause Musicale. Bonjour Anne.
Bonjour Jean-Luc et bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir et aimer les légendes dans la musique classique, tout un programme.
Le temps s'y prête bien. Ah oui, en plus, tout à fait, on est en plein dans la période. Alors, bien effectivement, la musique classique avec ses chefs-d'œuvre, je dirais, intemporels, a engendré une multitude de mythes et de légendes tout au long de son histoire. Alors, ces récits sont souvent embellis par le temps et ajoutent une couche de mystère et de fascination à des figures déjà emblématiques. Et bien là, on va commencer, Anne, avec une légende, voire je dirais même un mythe avec Orphée et Eurydice. Alors, Orphée et Eurydice, et bien en fin de compte, Anne, c'est un célèbre opéra.
Oui, c'est le 30e et le plus célèbre opéra de Gluck. Il s'agit d'une tragédie, en fait un opéra, un drame héroïque en 3 actes. Il raconte la légende et le mythe grec d'Orphée et Eurydice. C'est à l'occasion de cet opéra d'ailleurs qu'est créé le poste de harpe au sein de l'Orchestre de l'Opéra de Paris qui à ce moment-là s'appelait l'Académie Royale de Musique, s'il vous plaît.
Voilà, alors le résumé en quelques mots, et bien Orphée, accablé par la mort de sa jeune épouse Eurydice, chante son infinie tristesse. Sa musique touche Hadès, le dieu des enfers, qui l'autorise à ramener Eurydice dans le monde des vivants. Mais Orphée doit pour cela attendrir les gardiens des portes de l'enfer par sa musique. Et on écoute. très belle pièce.
Magnifique violoncelle.
Oui, avec un magnifique violoncelle qui interprète cette danse des esprits bienheureux de Gluck dans Orphée Eurydice. Alors, autre légende, eh bien là on va parler de La Dame Blanche de Boieldieu, qui est un opéra, je dirais, comique en trois actes sur un livret d'Eugène Scribe, qui a été créé le 10 décembre 1825 à l'Opéra Comique. Et là, l'œuvre, elle s'inspire de deux romans, celui de Walter Scott, Le Monastère, et de Guy Mannering, tiré d'une légende, celle tout simplement de La Dame Blanche.
Alors, histoire. Le château familial des comtes d'Avenel est tombé en désuétude après la mystérieuse disparition de leur dernier descendant, Julien. On murmure que la vieille bâtisse est hantée par le fantôme d'une mystérieuse dame blanche. L'ambitieux intendant Gaveston veut acquérir le château qui va être vendu en l'absence d'héritier quand survient un jeune officier, George Brown, dont les souvenirs semblent confus. Anna, une jeune fille recueillie autrefois par la dernière comtesse d'Avenel, reconnaît en George Brown un soldat qu'elle a soigné autrefois et dont elle est éprise, bien sûr.
Ah.
Déguisée en dame blanche, elle le pousse à se porter acquéreur du château et lui permet d'en régler le prix grâce à la fortune des Avenel dont elle connaissait la cachette. On finit par découvrir que George n'est autre que Julien, le fameux héritier disparu. Gaveston doit reconnaître sa défaite devant Anna, qui a réussi à déjouer ses projets et à rendre fortune et château au dernier des Avenel.
Voilà.
Anna donc peut épouser Julien, qui a recouvré la mémoire.
La Dame Blanche de Boieldieu. Alors, on va continuer et avec une légende, ce coup-ci, qui nous transporte dans le monde, je dirais, du Proche-Orient et de ses mythes. La fameuse, Alors, c'est une œuvre que vous connaissez hein, certainement de nom, Scheherazade. Scheherazade, eh bien, c'est un opus 35, c'est une suite symphonique de Nikolaï Rimsky-Korsakov, créée à Saint-Pétersbourg le 3 novembre 1888, dans le cadre des concerts symphoniques russes. L'œuvre étant constituée de quatre mouvements, je dirais qu'on peut tout simplement la considérer comme une grande symphonie classique, et cependant centrée sur un programme, je dirais, particulier. Donc, comme le sont aussi bien la 6e symphonie de Beethoven et la symphonie fantastique de Berlioz, même, il faut le reconnaître, si ces deux dernières sont constituées non pas de quatre, mais de cinq mouvements, n'est-ce pas, Anne ?
L'œuvre puise son inspiration dans les Mille et une nuits, dont le compositeur résume l'argument au début de la partition. Le sultan Shahriar, persuadé de la perfidie et de l'infidélité des femmes, jura de faire mettre à mort chacune de ses épouses au matin de leur nuit de noces.
Eh ben, très gentil, monsieur.
Sympa, hein,
ah,
le gars.
Sympa.
Mais la sultane Scheherazade réussit à sauver sa vie en le captivant par une suite de contes, oh, dont le récit dura, figurez-vous, mille et une nuits.
Et voilà.
Pris par la curiosité, le sultan remettait toujours au lendemain la sentence qui devait frapper son épouse et finit par y renoncer.
Eh bien, écoutez-moi cette belle voix de Scheherazade. Thank you. Et le petit plonk à la fin des cordes. Voilà. On peut comprendre quand même que le sultan ait succombé au charme et à la belle douce voix de Scheherazade et qu'il n'a pas mis à exécution son plan mortuaire. Voilà. Belle légende, beau conte. On continue avec ce coup-ci. Bon, on va aller voir du côté de Rossini avec Sémiramide, qui est un opéra seria. Alors, je ne me trompe pas quand je vous le dis, parce que l'opéra seria, en fin de compte, c'est un opéra de tradition et de langue italienne qui est pratiqué au XVIIIe siècle. Son caractère est plutôt noble et sérieux, on va dire, de ce style d'opéra, ce qui l'oppose complètement à l'opéra bouffa, ou l'opéra bouffe, si vous préférez, de caractère comique et enjoué, qui est l'héritier de la tradition de la commedia dell'arte, n'est-ce pas ? Alors, l'opéra seria fut très en vogue dans presque toute l'Europe pendant le Xe siècle, à l'exception, bien évidemment, il fallait bien qu'il y ait un pays qui se... au niveau musical au Xe siècle, qui se diverge, notable, qui est celui de la France, bien sûr.
Donc c'est un opéra de Rossini, représenté pour la première fois au théâtre La Fenice à Venise, en Italie, le 3 février 1823. Cet opéra en deux actes, composé sur un livret de Gaetano Rossi, est inspiré de la pièce de Voltaire, Sémiramis. Sémiramide est le dernier opéra que Rossini ait écrit pour l'Italie, sa carrière s'étant poursuivie ensuite à Paris. L'une des raisons de son nouvel intérêt pour ce genre d'opéra fut sa relation avec la grande soprano dramatique Isabella Goldbrand, qui fut d'abord sa maîtresse et puis, après, son épouse.
Eh bien voilà. Alors, de quoi raconte l'œuvre ? Eh bien, l'œuvre n'a ni plus ni moins la légende de Sémiramis, la reine mythique de la ville de Babylone. Et elle doit, pour le peuple, choisir un nouveau roi pour remplacer son défunt mari, malheureusement. Et au moment où elle fait son choix, le spectre de son époux apparaît publiquement et ordonne que le nouveau roi tue un homme en guise de sacrifice devant sa tombe le soir même. Sympa quand même, hein. Et le drame se noue lorsque le nouveau roi, qui se nomme Arsas, découvre qu'il est le fils tout simplement de Sémiramide et que son destin lui ordonne de sacrifier sa mère, puisque c'est elle qui a tué son époux.
Thank you.
On reconnaît bien le style Rossini. Hein.
Oui, tout à fait. Un bon morceau musical pour une histoire un peu complexe et particulière. Il faut bien reconnaître quand même comme légende. Voilà.
Allez, on passe à une autre arrivée, l'arrivée de la reine de Saba, un célèbre extrait de l'oratorio de Salomon de Haendel, composé en 1748, qui évoque la visite de la reine de Saba à Jérusalem. Salomon, donc, c'est un oratorio en trois actes, composé entre le 5 mai et le 13 juin 1748. La première a eu lieu le 17 mars 1749 au Théâtre Royal de Covent Garden à Londres, mais l'œuvre, à ce moment-là, n'a pas rencontré le succès escompté à sa création. Alors, l'oratorio raconte l'apogée du roi Salomon, célèbre pour sa sagesse, et inclut des événements marquants de sa vie, notamment la construction du temple de Jérusalem et la visite de la reine de Saba.
Et bien voilà, et là, c'est l'extrait qu'on a décidé de partager avec vous. Et dans cet extrait, donc, la reine de Saba arrive à Jérusalem avec une grande suite, hein, vous savez, très imposant, apportant des cadeaux et posant des questions au roi Salomon. Et cette scène est souvent mise en avant pour sa richesse musicale et son éclat dramatique. La musique de cette scène est caractérisée par des chœurs grandioses et des airs qui célèbrent la rencontre Salomon et la reine de Saba, illustrant ainsi la magnificence de son royaume et la sagesse du roi. Alors, l'arrivée de la reine de Saba, ben, c'est devenu, je dirais, un morceau emblématique hein, du répertoire baroque, souvent interprété lors des concerts et des événements musicaux. Sa popularité réside dans, je dirais, sa mélodie entraînante et son orchestration surtout très riche, qui capture l'essence de l'époque de Haendel. Eh bien, écoutez. Et voilà, la reine de Saba est arrivée aux portes de Jérusalem. Alors, autre monument de la musique avec une légende forte, ce coup-ci, le fameux Vaisseau fantôme, quatrième opéra de Richard Wagner. Et là, il marque encore une transition entre le style dominant de l'opéra de la première moitié du 19e siècle et la révolution formelle à laquelle aspirait le compositeur. C'est-à-dire qu'on y retrouve cependant déjà certains des grands thèmes de l'univers wagnérien, avec l'errance, l'arrivée d'un personnage inconnu, le sacrifice et la rédemption par l'amour.
L'opéra fut créé le 2 janvier 1843 à Dresde. En 1860, Wagner révisera partiellement la partition, notamment le final, afin d'insister sur l'idée de la rédemption. Alors, il dure à peu près 2h15 sans interruption. Une plongée dans la mythologie, l'univers légendaire onirique et la puissance du féminin. Dans cet opéra de Wagner, le mythe ancestral du marin maudit semble être l'expression d'un esprit tourmenté. Afin de pouvoir franchir le cap de Bonne Espérance, un marin hollandais a maudit Dieu et les forces de la nature. Pour ses actes, il est condamné à errer à jamais sur les mers, ne pouvant débarquer que tous les 7 ans, jusqu'à ce qu'il trouve une épouse fidèle à la vie, à la mort. Mmh. Une voix s'élève alors pour lui déclarer « Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras, car tu seras le mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune à ceux qui le verront. » Cette légende inspira en 1834 une nouvelle au poète allemand Heinrich Heine, mémoire de Monsieur Schnabelewopski, qui, mêlé à d'autres éléments de la légende, servit de thème au livret de l'opéra, donc de Richard Wagner.
Alors, la musique de cet opéra de jeunesse, je dirais, de Wagner, dépeint exactement la force des éléments de manière aussi romantique que le sentiment amoureux. Mais il y introduit également, je dirais, un sujet majeur de ses œuvres ultérieures. Si les hommes peuvent pécher, les femmes, elles, doivent se racheter. entend bien les vagues hein, qui arrivent, le vaisseau dessus, en plein mouvement d'eau. Magnifique pièce de Richard Wagner. Eh bien, on va continuer dans les légendes.
Une petite pépite.
Oui. J'avoue que c'est un des opéras que j'aime le mieux. Enfin voilà, mais ça c'est à titre personnel. Puis ça me rappelle des bons souvenirs cinématographiques. Vous allez vite comprendre pourquoi, puisque on va parler de cette célèbre La Damnation de Faust, sous-titrée Une légende dramatique en quatre parties. Alors La Damnation de Faust, opus 24, eh ben c'est tout simplement un oratorio pour soliste, chœur et orchestre symphonique du compositeur français Hector Berlioz. Voilà. Voilà pourquoi j'aime, parce que je suis aussi fan de Berlioz. Alors, inspiré du premier Faust, une tragédie légendaire de 1808 de Johann Wolfgang von Goethe, n'est-ce pas ? Elle est créée à l'Opéra Comique de Paris le 6 décembre en 1846. Alors, il faut savoir que le livret est une libre adaptation hein, par Almire Gandonnière et Berlioz lui-même de la donc, pièce de Goethe, telle qu'elle avait été traduite par Gérard de Nerval en 1828. Il y a là trois fragments orchestraux, en sont souvent joués indépendamment en concert. Vous avez la marche hongroise que l'on va vous faire écouter, le ballet des Sylphes et le minuet des Follets.
Alors, dans les plaines de Hongrie, c'est le début du printemps sur les bords du Danube. Faust chante sa solitude au sein de la nature. Au loin, chantent et dansent des paysans, puis paraissent des soldats se préparant au combat. C'est lors de sa deuxième grande tournée en Allemagne, en 1845, qu'Hector Berlioz compose ce morceau. Alors qu'il est sur le point de quitter Vienne, en Autriche, pour Bess, en Hongrie, un amateur viennois lui conseille, pour séduire le public hongrois, de composer un petit morceau sur un thème hongrois. Berlioz saisit l'opportunité et met ainsi en musique la marche de Rákóczi, qui jouera à Pest. Succès phénoménal, il le raconte dans ses mémoires.
Après une sonnerie de trompette dessinée sur le rythme des premières mesures de la mélodie, le thème paraît. Vous vous en souvenez ? Exécuté piano par les flûtes et les clarinettes et accompagné par un pizzicato des instruments à cordes. Le public resta calme et silencieux à cette exposition inattendue. Mais quand sur un long crescendo, des fragments fugués du thème réapparurent, entrecoupés de notes sourdes et de grosses caisses simulant des coups de canon lointains, la salle commença à fermenter avec un bruit indescriptible. Et au moment où l'orchestre déchaîné, dans une mêlée furieuse, lança son fortissimo si longtemps contenu, la fureur concentrée de toutes ses âmes bouillonnantes fut explosée avec des accents qui me donnèrent le frisson de la terreur. Ah, il me sembla sentir mes cheveux se hérisser. Et à partir de cette fatale mesure, je dus dire adieu à la péroraison de mon morceau. La tempête de l'orchestre étant incapable de lutter avec l'éruption de ce volcan dont rien ne pouvait arrêter les violences. Il fallut recommencer, cela se devine. Et la seconde fois, ce fut à grande peine que le public put se contenir 2 ou 3 secondes de plus.
On se voit bien dedans. Hein,
n'est-ce pas hein ?
On voit bien la scène.
Vous pensez bien, mon cher Imbert, que la Rákóczi Induló, après cela, fut de tous les programmes et toujours avec le même succès. Je dus même, en partant, laisser à la ville de Pest mon manuscrit qu'on désira garder, et dont je reçus une copie à Breslau un mois après. On l'exécute maintenant en Hongrie, dans les grandes occasions.
La marche de Rákóczi, ou marche hongroise, fut donc un grand succès et très apprécié, si bien qu'il l'intégrera dans sa grande Damnation de Faust. Cette marche est l'un des morceaux les plus populaires et les plus connus de Berlioz, sans même que le public sache, ou du moins se souvienne, que ce soit Berlioz qui l'ait composé.
Tout à fait. We'll be right back. jusqu'au bout, je vous l'emmène, la marche au bois, jusqu'au bout. Hein? Alors, ouais, magnifique pièce, magnifique morceau, magnifique moment musical. Je vous parlais d'un petit souvenir cinématographique. Allez voir. Alors, pour les plus jeunes, ça ne peut-être pas parler,
ben,
mais
oui,
pour
ça.
Certains, Louis de Funès, grand acteur français, ça va pas vous replonger quand même dans ce fameux film La Grande Vadrouille. Et vous allez voir ce moment d'anthologie où de Funès clame en tant que chef d'orchestre qu'il y a lui et Berlioz et pas d'autres personnes qui doivent être aussi parfaits que ce morceau. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse. On va continuer avec une autre légende ce coup-ci, puis on va aller
c'était
dans un...
C'était très bien.
Oui, n'est-ce pas? Et bien ça peut être mieux. Mais avec un compositeur français, Albert Roussel. Et là, on va partir dans Bacchus et Ariane. Magnifique opéra opus 43 qui est une musique pour ballet composée par Albert Roussel en 1930 sur un argument d'Abel Hermand, d'après la fameuse légende de Bacchus. Vous savez, Bacchus, dieu de la fécondité pour les Romains, mais surtout connu comme étant le dieu du vin et des festivités, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une œuvre de maturité, à peu près contemporaine de sa troisième symphonie. Elle décrit, en fin de compte, l'enlèvement d'Ariane par le dieu Bacchus et leur amour. Alors, l'œuvre originale, eh bien, c'est une œuvre en deux actes. Elle a été créée par l'orchestre de l'Opéra de Paris sous la direction de Philippe Gobert le 22 mai 1931. Vous voyez, c'est une pièce assez jeune, hein, avec une chorégraphie de Serge Liffard et des décors de Giorgio De Chirico. Roussel en tira par la suite deux suites pour orchestre, chacune correspondant à un acte du ballet. La deuxième suite, celle que l'on va vous faire entendre, est la plus connue des deux et c'est un morceau de choix pour les concerts. Elle est d'ailleurs, il faut le savoir, plus fréquemment enregistrée que la première. Deuxième suite de Bacchus. Petit morceau, petite pépite qu'on vous avait envie de vous faire découvrir de Roussel. Je vous invite à les écouter en entier. Vous allez voir, c'est des magnifiques petites suites, magnifiques petits moments de légende. Voilà. On va continuer. Bienvenue dans Pause musicale sur les légendes dans la musique classique. Et là, on continue avec Alceste. Alceste de Gluck. Un pantomime, on va dire, musical. Le roi Admète est sur le point de mourir, voyez-vous, c'est ça l'histoire. Et sa femme, Alceste, eh bien, offre alors sa vie au dieu en échange de celle de son époux. Quel bel amour, n'est-ce pas ? Ramené à la vie, Admète découvre le sacrifice d'Alceste et propose à son tour au dieu, eh bien, de sauver sa femme. Vous voyez, on va y arriver, on va y arriver.
On va plus s'en sortir.
Contre sa propre vie.
Dans cette légende, au paroxysme d'enthousiasme héroïque, Alceste interpelle les dieux du Styx pour les braver. Une voix rauque et terrible lui répond. Le cri de joie des cohortes infernales, l'affreuse fanfare de la trompe tartarienne, retentit pour la première fois aux oreilles de la jeune et belle reine qui va mourir. Son courage n'en est point ébranlé. Elle l'apostrophe au contraire, avec un redoublement d'énergie. Ces dieux avides, dont elle méprise les menaces et dédaigne la pitié. Elle a bien un instant d'attendrissement, hein, mais son audace renaît, ses paroles se précipitent. Je sens une force nouvelle. Sa voix s'élève graduellement. Les infections en deviennent de plus en plus passionnées. Mon cœur est animé du plus noble transport. Et après un court silence, reprenant sa frémissante évocation, sourde aux aboiements de Cerbère, comme à l'appel menaçant des ombres, elle répète encore « Je n'invoquerai point votre pitié cruelle, avec de tels accents que les bruits étranges de l'abîme disparaissent vaincus par le dernier cri de cet enthousiasme mêlé d'angoisse et d'horreur. »
Waouh ! Alors, je crois que, j'en suis même persuadé que ce prodigieux morceau est la manifestation la plus complète des facultés de Gluck. Facultés qui ne se représenteront peut-être jamais réunies au même degré chez le même musicien. Une inspiration entraînante, haute raison, grandeur de style, abondance de pensée, connaissance profonde de l'art, de dramatiser l'orchestre. La mélodie est pénétrante, l'expression toujours juste, naturelle et pittoresque, désordre apparent, on va dire, hein, mais entre guillemets, qui n'est qu'un ordre plus savant. Simplicité d'harmonie, clarté de dessin et, par-dessus tout, je dirais, force immense qui épouvante l'imagination capable de l'apprécier.
Cet air monumental, ce climax d'un vaste crescendo préparé pendant toute la dernière moitié du premier acte, ne manque jamais de transporter l'auditoire quand il est bien exécuté et cause une de ces émotions qu'il serait inutile de chercher à décrire. Il faut, pour que son exécution soit fidèle et complète, que le rôle d'Alceste soit confié à une grande actrice possédant une grande voix et une certaine agilité, non pas de vocalisation, mais d'émission des sons qui lui permettent de bien faire entendre le débit rapide sans prendre des temps pour poser chaque note.
magnifiquement beau, magnifique morceau, très bien écrit. C'est vrai que les harmonies sont magnifiques, elles sont belles. Voilà, c'est un pur bonheur d'avoir ce petit texte-là. Alors, eh bien, on arrive à la fin de notre émission. Eh bien, pour finir cette émission, eh bien, nous partons pour une dernière légende dans le pays des petits farceurs. Till l'Espiègle, Till Eulenspiegel, opus 28, également traduit par Les plaisantes farces de Till l'Espiègle ou Les joyeuses facéties de Till l'Espiègle, est un poème symphonique composé par Richard Strauss en 1894-1895. Chronologiquement, l'œuvre se situe au milieu des pièces symphoniques du musicien, c'est-à-dire entre Mort et Transfiguration, et ainsi parlait Sarasoustra bien avant ses opéras majeurs.
Cette musique reprend le thème de la légende allemande du héros allemand Till, ce dernier étant représenté par le cor d'harmonie et la petite clarinette en mi bémol. La sonorité nasillarde de cette clarinette convient parfaitement à la personnalité de Till. La structure de la pièce reprend celle d'un rondeau. L'œuvre est d'un seul tenant et son exécution dure environ 15 minutes. La partition comprend une série d'annotations de la main du compositeur pour décrire chaque motif. Il était une fois un bouffon coquin nommé Till l'Espiègle. C'était un malicieux lutin parti vers de nouvelles facéties. Attendez un peu, peureux. Hop ! À cheval, à travers l'étalage de marchandes de poissons. Il court avec des bottes de 7 lieues, cachées dans un trou de souris. Déguisé en pasteur, il sent l'onction et la morale. Toutefois, le vaurien se révèle par son gros orteil. Mais comme il se rit de la religion, il ressent soudain une peur panique de la mort. Till, chevaleresque et échangeant des grâces avec de charmantes jeunes filles, il leur fait la cour. Un refus élégant est aussi un refus. Jure vengeance contre la race humaine, thème des Philistins. Après avoir démontré aux Philistins quelques thèse plutôt monstrueuse, il les abandonne, ébahi à leur sort. Grimace lointaine, chanson de Till, le tribunal, ici flotte nonchalamment, sur l'échafaud, il pend, l'air lui manque, un dernier spasme, Till a vécu. Thank you.
Voilà, on finit notre émission. Merci de nous avoir écoutés par cette petite légende allemande du 15e siècle de Richard Strauss. Petite pépite qu'on avait envie de vous faire découvrir. Mm-hmm. On la trouve très belle, cette petite légende. Elle est bien marrante et bien mignonne. Nous, on vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Prochaine émission, allez, c'est une petite surprise. J'en dis pas plus, mais juste mettez vos enfants avec vous à écouter la prochaine pause musicale parce qu'elle leur sera tout à fait dédiée. Voilà, mais j'en dis pas plus. Vous verrez, une petite merveille de comme nous savons vous en faire quelques-unes des fois, des petites surprises. Merci Anne, à bientôt.
À bientôt.
Merci à tous, passez de très bons moments en musique. Au revoir.
Pause musicale.
L'émission de l'association Toulon-Jacquoise, le GERFO.
Le rendez-vous mensuel qui vous propose un autre regard
sur la musique
et le patrimoine.